Bien, nous allons commencer. Alors, je vais parler aujourd'hui de modèles à basse énergie. Ce sont des modèles qui permettent de faire l'inférence. Donc, ils ne sont pas simplement des modèles d'entrée-sortie, mais un petit peu plus compliqués, pour des situations un peu plus compliquées. Ce sera suivi d'un séminaire de Gabriel Sinev, qui est chercheur à Facebook AI Research, qui parlera de reconnaissance de la parole avec réseau neurone et apprentissage profond. Il a deux choses en commun avec moi. D'une part, il travaille à Facebook. Par ailleurs, il vient de débarquer de New York comme moi. Donc, il a eu une nuit très courte. Alors, donc, commençons par Energy Based Models. C'est un petit peu ennuyeux, ça. Je ne sais pas si je peux l'enlever. Pas vraiment. Bon, il va falloir le supporter. Voilà. Alors, l'idée de base des systèmes à basse énergie, c'est pour permettre de faire de l'inférence un petit peu plus complexe que dans le cas où le système est censé juste produire une sortie unique à partir d'une entrée. Donc, une situation typique de ça, c'est quand on veut faire, par exemple, de la reconnaissance de la parole ou de la reconnaissance de l'écriture manuscrite ou des choses, ou de la traduction par exemple, ou des modèles de langage, donc des systèmes qui typiquement sortent une séquence de symboles par exemple, qui doit être structurée, donc qui doit avoir une certaine structure et pour lequel il n'y a pas forcément une réponse unique, c'est-à-dire dans le cas de la reconnaissance de la parole, il y a quelquefois des mots qu'on ne comprend pas et il faut peut-être produire des mots qui seraient des bons substituts pour ce qui a été prononcé. Certainement pour la traduction de la langue, il y a plusieurs traductions possibles pour chaque phrase dans une langue particulière. Donc il n'y a pas forcément une seule réponse possible pour chaque entrée. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu difficile d'entraîner un réseau feed-forward, quoi, un réseau qui simplement prend une entrée, produit une seule sortie, lorsqu'il y a plusieurs alternatives possibles. Et surtout lorsque la sortie est structurée. Alors, l'idée de base des modèles à basse énergie, c'est qu'au lieu que... Donc on va se concentrer juste sur ce module-là, on peut avoir un module de base qui est simplement une fonction déterministe qui prend une entrée et qui produit une sortie. Mais au-dessus, on va mettre un module à basse énergie. Et ce que fait ce module, c'est que... il observe l'entrée qui vient de soit directement de l'entrée, soit d'un réseau de neurones classique ou d'un autre modèle. Et la sortie n'est pas une sortie directe, mais c'est en fait une entrée du module. Il y a possiblement aussi des variables latentes qui sont des variables qui ne sont pas observées, mais disons dont la valeur aiderait à produire la réponse, mais on va ignorer ça pour l'instant. Donc, on va simplement voir ce module à basse énergie comme étant un module avec deux entrées, une qui est observée et une autre qui doit être inférée. Ce que ce modèle produit, c'est une valeur scalaire qui indique la compatibilité entre ces deux valeurs observées, entre le X et le Y, entre l'entrée observée et la sortie que le système est censé produire. Et donc, il peut y avoir un processus d'inférence qui consiste à chercher la valeur de cette variable qui va minimiser cette énergie et ça va être le résultat. D'accord ? Donc, au lieu d'avoir une fonction qui produit directement une sortie à partir de l'entrée, on a l'entrée et la sortie qui rentrent dans une fonction qui mesure leur compatibilité et on fait une inférence, une minimisation de cette énergie par rapport à cette variable. Alors c'est beaucoup utilisé sous divers noms dans le contexte de l'apprentissage automatique depuis très longtemps. Probablement la première communauté, les premières applications de ce genre de choses étaient dans le contexte de la reconnaissance de la parole où là il faut vraiment chercher parmi toutes les transcriptions possibles celle qui est la plus cohérente. Et donc ces systèmes d'inférence existent dans ce domaine. Très souvent, ils sont formalisés non pas par une énergie, mais par une probabilité. On peut toujours transformer une énergie en probabilité. S'il y a des physiciens dans la salle, ils sont très... je suis sûr qu'ils connaissent bien le principe. On peut prendre l'exponentielle d'une énergie et la transformer en un nombre positif et puis normaliser pour transformer ça en une distribution de probabilité. Mais l'approche énergie est un petit peu plus générale. Donc il y a tout un tas de modèles qui utilisent ce genre d'idées, ce qu'on appelle les perceptions structurées, les champs de Markov conditionnels, etc. etc. Il y a quelques années, une dizaine d'années, j'ai écrit un long article, un petit tutoriel sur cette idée un peu générale qui donne une présentation un petit peu unifiée de tout ça. Mais les premiers modèles de ce type remontent à très loin, donc comme je l'ai dit, en reconnaissance de la parole à la fin des années 80, et l'utilisation de réseaux de neurones dans un contexte d'apprentissage structuré aussi remonte assez loin avec la thèse de Léon Botou, Yosha Bengio, Patrick Hafner, Hervé Bourlard au début des années 90. Un petit peu plus récemment, ce qu'on appelait les Graph Transformer Networks, qu'on a utilisé pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Et puis plus récemment, les perceptions structurées, CRF, Max Margin, Markov Nets, etc. qui, eux, n'utilisent pas de réseaux neurones, mais utilisent des systèmes de classification plus classiques, disons, de shallow learning et non deep learning. Donc voilà le prototype d'un système à basse énergie. Donc il prend une variable observée X, une entrée, et la sortie, en fait, la valeur Y n'est pas une sortie, c'est une entrée aussi de la fonction. Et le processus d'inférence consiste à trouver la valeur de Y qui minimise cette fonction d'énergie. D'accord ? Pas d'apprentissage pour l'instant, on suppose que la fonction d'énergie nous est donnée. Donc là, par exemple, si on veut faire la classification d'image, on va essayer toutes les catégories possibles. On va donner à cette variable-là toutes les catégories possibles et puis mesurer l'énergie qu'on obtient pour chacune de ces valeurs et prendre le minimum. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, animal. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça peut s'appliquer à tout un tas de choses, particulièrement les situations où l'objet à produire est structuré. Donc par exemple, si on veut produire une image qui est le résultat d'une segmentation, si on veut que cette image respecte certaines contraintes, on peut implémenter ces contraintes dans la fonction d'énergie pour par exemple satisfaire au fait que le noyau d'une cellule est à l'intérieur du cytoplasme, etc. On peut mettre des contraintes géométriques à la main si on veut, ou apprises. C'est un modèle qui est relativement utilisé pour des histoires de débruitage d'images, où en fait on cherche par descente de gradient, typiquement, une image qui va minimiser une énergie qui, d'une part, qui va avoir en général deux termes. Un terme qui dit que cette image ne doit pas être trop différente de l'image d'entrée qui est observée, qui est une image bruitée, et par ailleurs, un autre terme qui dit que l'image doit être jolie. Alors ça peut être appris, encore une fois, dans cette... là-dedans. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour faire la reconnaissance de l'écriture, la reconnaissance de la parole, ou pour faire du traitement de langage naturel comme le parsing et autres. Alors, on peut toujours transformer les énergies en probabilités, donc si vous aimez bien manipuler les probabilités, c'est toujours possible de prendre ces fonctions d'énergie et de les transformer soit en une probabilité jointe, soit en une probabilité conditionnelle. Donc ici, par exemple, j'ai écrit la formule pour calculer la probabilité conditionnelle de Y sachant X à partir de l'énergie, mais l'énergie est un petit peu plus élémentaire, si vous voulez, plus fondamentale. On peut obtenir des probabilités à partir d'énergie, ce n'est pas toujours vrai, au contraire. Donc, on prend l'énergie donc, qui mesure la compatibilité entre Y et X. On élève ça, on prend l'exponentielle. Il y a un coefficient ici un petit peu arbitraire. Il y a un moins devant par convention, c'est-à-dire que les petites énergies correspondent à des hautes probabilités. D'accord ? C'est une convention qui vient de la physique, la physique statistique. Et pour obtenir... donc ça nous donne des nombres positifs. Et pour obtenir une probabilité conditionnelle qui est normalisée, on divise tout ça par la somme ou l'intégrale sur toutes les valeurs de Y, sur le domaine d'intérêt du numérateur. Donc maintenant, si on intègre ça par rapport à Y, on se retrouve avec une intégrale par rapport à Y en haut. On a le même terme en haut et en bas, et donc ça fait 1. Aussi simple que ça. Alors, encore une fois, par analogie avec la physique, ça s'appelle une distribution de Gibbs. Le paramètre, c'est similaire à l'inverse d'une température, et ce terme s'appelle la fonction de partition. Le terme de normalisation. Mais dans la plupart des cas, en fait, on n'a pas vraiment besoin de produire des probabilités à partir d'énergie. Sauf si on veut des scores calibrés pour pouvoir combiner plusieurs modèles ensemble sans les réentraîner. Je reviendrai plus tard là-dessus. Alors très souvent, les modèles à basse énergie ont en fait non pas que deux variables, mais en ont trois. Une qui est observée, une qui est celle qu'on est censé produire, enfin prédire, qui est observée sur l'ensemble d'apprentissage, mais pas sur l'ensemble de tests. Enfin, pas en disons en utilisation réelle. Et quelquefois, une variable latente que je note Z ici, qui sont des variables qui ne sont jamais observées. Alors, ça semble un petit peu mystérieux, mais je vais rentrer un petit peu dans les détails de ça. Donc, par exemple, imaginons qu'on veuille entraîner un système de reconnaissance d'objets, disons de détection de visage. Et on a un réseau neurone, disons un réseau convolutif, par exemple, qui nous donne un score, nous disant s'il y a un visage à chaque endroit de l'image. Donc il est appliqué de manière convolutive sur toute l'image, et puis il nous sort une carte de score, et pour chaque endroit dans l'image, il nous dit s'il pense qu'il y a un visage ou pas. Pour entraîner un système de ce type-là, donc la sortie est binaire, il y a un visage ou il n'y a pas de visage, mais il y a une variable latente qui est la position du visage. Donc pour entraîner le système, il faut simultanément dire s'il y a un visage ou il n'y a pas de visage, mais il faut aussi trouver où est le visage. Et on peut voir ça comme une variable latente, ça ne nous est jamais dit par l'ensemble d'apprentissage. L'ensemble d'apprentissage ne nous dit pas où est le visage, il nous dit simplement il y a un visage dans l'image. Donc on peut voir cette position-là comme une variable latente. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On peut traiter de ce cas-là, de la variable latente, comme de manière très simple, en simplement englober ce modèle à variable latente à l'intérieur d'une boîte plus grosse qui elle-même fait l'inférence par rapport à Z. Donc on peut écrire une nouvelle énergie qui est similaire à ce que les physiciens appellent l'énergie libre, qui elle ne dépend que de X et de Y. Et ce que fait cette boîte, en fait, c'est qu'elle marginalise ou elle minimise par rapport à Z. Donc un exemple très simple, c'est simplement la minimisation. Donc si on prend la fonction énergie originale, on la minimise par rapport à Z, on a maintenant une fonction qui dépend que de XY. Il y a une autre technique qu'on peut utiliser qui est la marginalisation, qui consiste à calculer moins le log de la somme des exponentielles des énergies pour toutes les valeurs de Z. D'accord ? Ça peut être un peu plus compliqué si Z est une variable à haute dimension. Et ça nous donne une autre forme d'énergie libre. Donc ça correspond, d'un point de vue probabiliste, à marginaliser sur les variables Z. Ça correspond simplement à faire une inférence de maximum de vraisemblance. Alors prenons un exemple un petit peu plus concret pour par exemple faire de la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Donc on nous donne un mot et disons qu'on a une heuristique pour découper ce mot en caractères. Donc on n'utilise pas la méthode dont j'ai parlé la dernière fois qui sera en fait la méthode moderne la plus usitée. Qui consisterait à simplement déplacer un réseau convolutif avec une fenêtre glissante sur tout le mot. Ce n'est pas ce qu'on va faire ici. On va utiliser une espèce d'heuristique pour segmenter ce mot en morceaux. Mais bien sûr, on ne peut pas savoir quels morceaux vont ensemble pour former des caractères avant d'avoir reconnu les caractères. Donc il faut formuler plusieurs hypothèses de segmentation et qui sont représentées par un graphe ici. Donc ce graphe, chaque chemin dans ce graphe passe par. Chaque arc dans ce graphe correspond à un morceau d'encre, disons un certain ensemble de traits dans l'image. Et chaque chemin dans ce graphe est tel que si on part du nœud de départ qu'on va au nœud final, on passe par tous les morceaux d'encre, si vous voulez. Donc, on voit la séquence complète de toutes les composantes de l'image dans chacun des morceaux. Alors, le chemin en haut ici correspond à une segmentation extrême du mot dans lequel on a découpé tous les morceaux. Il y a un autre chemin qui passe par le bas ici qui assemble les deux premiers morceaux ensemble, et puis un autre chemin qui met le 3 tout seul, le 4, les deux morceaux du 4 assemblés, et puis le 2 par lui-même, qui est bien sûr le chemin correct dans ce cas-là. Alors, on peut appliquer notre réseau convolutif préféré sur chacune de ces composantes, qui va nous donner un score pour chacune des 10 classes, si on veut faire la reconnaissance de chiffres manuscrits. Et ça va créer un graphe, encore une fois, qui a une structure très similaire à celui-là, mais dans lequel maintenant les arcs sont étiquetés par les étiquettes de 0 à 9 et ont un score qui correspond au score donné par le classifieur à cette catégorie particulière. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher dans ce graphe quel est le chemin le plus court, qui, disons, le moins coûteux, donc avec la somme, dans lequel la somme des énergies sur le long du chemin est la plus faible, qui va nous donner la réponse, en fait. Donc voilà l'exemple dont je parlais précédemment de détection de visage, où on applique un réseau convolutif avec une fenêtre glissante sur une entrée. Le système, on dit au système s'il y a un visage ou pas de visage durant l'entraînement, et ce que le système doit faire, c'est inférer la position du visage. Et il fait ça en choisissant la position dans laquelle le score courant est le plus grand, ou l'énergie la plus basse. Donc c'est une minimisation par rapport à cette variable latente Z qui correspondrait à la position du visage. Donc ça donne une certaine flexibilité qui permet de produire un système dont la production de la sortie n'est pas simplement un calcul direct, mais le résultat d'une optimisation. Et ça donne un peu plus de flexibilité et de puissance peut-être. Alors, un des premiers exemples de ça, en tout cas combiné avec les réseaux de neurones, était un système de reconnaissance de mots produit par Xavier Driancourt et Léon Boutou au début des années 90, 1991 en fait. Un papier qui est malheureusement passé relativement inaperçu, mais qui était un petit peu un pionnier dans ce domaine, qui en fait permettait d'entraîner un réseau de neurones avec un système de prédiction structurée pour reconnaître des mots parlés. Donc ça va se connecter avec ce que va raconter Gabriel dans la deuxième heure. Donc l'idée de ça, c'est qu'on prend une séquence de vecteurs qui représente le signal de parole. Très souvent, c'est une séquence de vecteurs dont chacune des composantes indique l'énergie dans une bande de fréquence. Gabriel vous en parlera un petit peu plus. On branche un réseau convolutif dessus. Donc c'est un réseau convolutif qui fait des convolutions sur le temps, dans ce cas-là, et qui produit lui-même une séquence de vecteurs de caractéristiques, d'une certaine manière. Mais bien sûr, si on veut entraîner le système à reconnaître des mots, chaque personne peut prononcer un mot avec une vitesse différente, et donc les mots ont des longueurs variables. Et donc cette séquence va avoir une longueur variable, cette séquence va avoir une longueur variable également. Et les modèles de mots, donc on va faire une classification ici, donc si on veut faire par exemple de la classification de mots à petit vocabulaire, donc par exemple reconnaître les chiffres parlés de 0 à 9, il va falloir avoir un modèle pour chaque mot, et ce modèle pour chaque mot doit être robuste vis-à-vis de variations de la vitesse de prononciation du mot. D'accord ? Alors la manière dont on peut faire ça, c'est une manière relativement classique, c'est ce qu'on appelle dynamic term warping, c'est une technique qui remonte aux années 70 en reconnaissance de la parole, et qui consiste en fait à avoir un modèle de mots qui est aussi une séquence de vecteurs, mais dans lequel ces vecteurs ne sont pas forcément, disons, successifs les uns avec les autres. On peut étirer cette séquence pour l'aligner avec la séquence qui vient ici, la tirer ou la contracter d'ailleurs. Donc on peut imaginer que c'est un petit peu similaire à une séquence de mots dont l'énergie... Donc l'énergie qui correspond à l'appariement de cette séquence de vecteurs à un modèle de mots particulier serait la somme des distances, si vous voulez, entre le vecteur de sortie ici et le vecteur du modèle référence, et aussi une espèce d'énergie d'étirement qui correspondrait. C'est comme si on avait des ressorts entre les vecteurs et que si on tire trop dessus, ça fait monter l'énergie. Un espèce de modèle un peu physique. Et donc pour chaque modèle de mot, de 0 à 9, on essaie de trouver l'étirement des ressorts et l'alignement pour que le modèle du mot s'aligne avec ce qui sort. Et les positions de ces variables sont en fait des variables latentes, parce qu'on fait une minimisation par rapport à la position de ces vecteurs pour trouver l'appareillement. Donc le time warping, d'une certaine manière, l'alignement temporel, constitue les variables latentes de cette inférence. Et ensuite, on regarde quelle est l'énergie la plus basse. Donc si l'énergie la plus basse pour tous ces modèles correspond au modèle du mot 3, ce sera le modèle choisi pour la classification. Alors la grosse question, c'est comment on entraîne ça. Donc un petit peu plus de détails sur ces histoires d'alignement. Encore une fois, une technique très classique en reconnaissance de la parole pour faire de l'alignement. Ce qui est nouveau ici, ce qui était nouveau en 1991, c'était l'idée de pouvoir entraîner un réseau de neurones à travers ce genre d'alignement. Donc cette histoire d'alignement, en fait, est très simple à calculer. Parce que trouver le minimum d'énergie d'un système à ressort comme ça, ou disons n'importe quel système de ce genre, unidimensionnel, se fait par programmation dynamique. Donc c'est le plus court chemin dans un graphe. On prend la séquence de vecteurs qui est ici, la séquence de vecteurs avec laquelle on veut faire l'appariement, et on essaie de trouver un chemin dans un graphe qui nous prend de ce point-là à ce point-là, et qui a l'énergie minimum. Donc qui apparaît des vecteurs qui sont les plus proches les uns des autres, et par ailleurs qui étire le moins possible les ressorts. Donc c'est simplement un algorithme de plus court chemin sur un graphe. Et alors la question, c'est comment on entraîne ça. Donc l'idée en fait relativement simple. Elle consiste dans ce cas-là, et je vais donner ça comme exemple et ensuite passer dans la situation un petit peu plus générale. Donc encore une fois, on prend la séquence de vecteurs acoustiques, on passe ça dans un réseau convolutif qui, dans le cas temporel, ici s'appelle un time delay neural net, donc c'est le réseau convolutif temporel. On récupère cette séquence de vecteurs de caractéristiques. On a un modèle pour chaque mot, ou plusieurs modèles pour chaque mot, mais disons au moins un modèle pour chaque catégorie. On calcule la distance par alignement dynamique entre cette séquence et chacun des modèles. Donc ça nous donne une minimisation par rapport aux variables latentes qui sont ces alignements. Et la manière dont on doit entraîner ça, c'est qu'on doit entraîner le modèle du mot correct à être le plus proche possible de la sortie du réseau, et entraîner la sortie du réseau à être le plus proche possible de la sortie du modèle correct, du mot correct, enfin du modèle de mot correct. Donc ça c'est relativement simple parce qu'on peut obtenir un gradient de cette distance à travers le time warping par rapport aux sorties du réseau, ce qui nous permet de rétropropager les gradients à travers le réseau pour l'entraîner. Alors ça, malheureusement, ça ne suffit pas, parce que si on ne fait que ça, si on ne fait que minimiser la distance entre la sortie du réseau et le modèle, on arrive à une solution très simple qui est que tous les modèles se mettent au même endroit, le réseau neurone ignore complètement l'entrée et produit une sortie constante, égale à tous les modèles. Ça minimise la fonction de coût qui consiste à minimiser la différence entre le modèle correct et la sortie du réseau. Mais bien sûr, ça ne marche pas. Donc il faut un deuxième terme dans la fonction d'erreur, dans la fonction de coût, qui consiste à repousser les modèles qui sont incorrects. Donc si un modèle gagne, c'est-à-dire que, par exemple, le mot 3 a été prononcé et le mot qui est... le mot 3 a été prononcé et le système, en fait, reconnaît 4, il faut non seulement rapprocher le mot 3 de la sortie du réseau et rapprocher la sortie du réseau du modèle du mot 3, mais il faut aussi éloigner le modèle 4 de la sortie du réseau et repousser la sortie du réseau du modèle 4. Il faut au moins deux termes, un qui attire, un qui repousse. Et ça évite le collapse en fait de tout ça. Alors, un petit peu plus de détails sur cette histoire de marginalisation. comme j'ai dit tout à l'heure, on peut, si on a une énergie qui est fonction des trois variables, x, y et z, dans l'ordre inverse ici, peu importe, pour obtenir une distribution conditionnelle par rapport à une ou plusieurs variables, il suffit de normaliser par rapport aux variables qui sont à gauche du conditionnement, donc celles sur lesquelles on veut une distribution normalisée, simplement parce que en mettant cette intégrale en haut aussi, c'est-à-dire en intégrant par rapport à z et y, on obtient 1. D'accord ? Donc ces distributions doivent être normalisées correctement. Si on veut éliminer cette variable z, il suffit d'intégrer ici par rapport à cette variable z, donc c'est une marginalisation par rapport à z, et on obtient cette formule. Mais en fait, on peut s'apercevoir que c'est exactement équivalent à utiliser une énergie qui est de cette forme. Donc si on a une énergie qui prend cette forme-là, et qu'on fait l'inférence par rapport à y, c'est comme si on prenait le y ici qui maximise cette probabilité marginalisée sur z. D'accord ? Donc cette énergie, en fait, est une manière d'éliminer la variable z de manière probabiliste, si vous voulez. Et quand bêta tend vers l'infini, toute cette expression, en fait, converge vers le minimum par rapport à z. Donc on se retrouve dans le cas simple d'inférence maximum de vraisemblance. Ok, donc comment entraîner un modèle à basse énergie ? Ce qu'il faut, c'est que si le système nous produit des énergies qui sont, disons, grandes pour... disons qu'on a un système de classification à 5 classes, il nous donne une énergie qui est grande pour... humain, grande pour animal, grande pour avion, petite pour voiture et grande pour camion, mais que la réponse correcte, c'est animal. Ce qu'il faut que la machine fasse, quand elle s'entraîne, c'est qu'elle fasse baisser l'énergie de l'animal et remonter l'énergie de la voiture, de manière à ce qu'après apprentissage, ce soit l'énergie de l'animal qui est la réponse correcte, qui soit la plus basse. D'accord ? Puisque le système produit la réponse qui a l'énergie la plus basse à la fin. Donc il faut entraîner le système de manière à ce qu'il donne l'énergie la plus basse à la réponse correcte et des énergies plus élevées aux réponses incorrectes. Donc on peut voir la fonction de coût qui est en fait une fonctionnelle que je note L ici. Donc c'est un petit peu des notations. On a une famille d'énergie fonctions, de fonctions d'énergie qui sont paramétrées par les poids ou du réseau neurone ou des choses comme ça. Donc cette fonction d'énergie ici dépend de l'entrée et de la sortie et dépend de paramètres. D'accord ? Et puis, quand les paramètres varient, ça nous donne une famille de fonctions d'énergie. Donc c'est la famille parmi laquelle on va apprendre. Notre ensemble d'apprentissage est une suite de paires x, y, y, donc entrée et sortie désirée. Et la fonction de coût, prend, ce qui est une fonctionnelle, en fait, qui prend la fonction d'énergie comme argument, si vous voulez, et l'ensemble d'apprentissage. Et ce qu'on doit faire, c'est trouver... donc, indirectement, on peut voir ça comme une fonction W. Et ce qu'on doit trouver, c'est un W qui minimise cette fonction de coût d'une certaine manière, mais il faut concevoir cette fonction de manière à ce qu'elle fasse la chose correcte, c'est-à-dire qu'elle donne l'énergie basse aux réponses correctes et une énergie plus haute aux réponses incorrectes. D'une manière générale, on peut, sans trop de perte de généralité, on peut écrire la fonction de coût de cette manière-là, qui est une somme ou une moyenne sur les exemples d'apprentissage d'une fonction de coût qui va dépendre de la fonction d'énergie pour tous les y possibles pour le x observé et qui va aussi prendre le y désiré. Et donc, il va nous dire si cette fonction d'énergie, en fait, va nous donner la bonne réponse, sachant que la bonne réponse est YI. D'accord ? Et on peut rajouter à ça un regularizer qui ne dépend que des paramètres, qui ne dépend pas des données. Alors, dans le cas discret, ici, que j'ai déjà montré, comme je l'ai dit, il faut que la fonction de coût, en fait, soit faite pour pousser vers le bas l'énergie des réponses correctes et pousser vers le haut les énergies des réponses incorrectes. Donc la continue, c'est peut-être un petit peu plus difficile à voir. Donc si la réponse correcte est ici, par exemple, il faut changer les paramètres de la fonction énergie de manière à ce que l'énergie de la réponse correcte descende et l'énergie des réponses incorrectes augmente, de manière à se retrouver avec un profil de ce type-là dans lequel la réponse correcte est un minimum de l'énergie. Donc il y a quatre éléments à trouver pour entraîner une machine à basse énergie. D'abord, l'architecture de E, c'est ça qui va contenir notre réseau de neurones, etc. L'algorithme d'inférence qui calcule le Y à partir du X et de la fonction énergie. Donc pour un X donné qui produit le Y avec l'énergie la plus basse. Et ça peut ne pas être si simple que ça. Donc dans le cas de catégorie discrète, c'est très simple, mais dans le cas où Y est une image, par exemple, ça peut être assez compliqué. Alors les gens, dans le passé, ont inventé tout un tas de méthodes pour faire la minimisation approximative, etc., de fonctions compliquées de ce type-là, dans le contexte de l'inférence probabiliste, mais on peut recycler beaucoup de ces algorithmes-là. Ensuite, il faut choisir ou concevoir une fonction de coût qui va prendre comme argument la fonction énergie et qui va lui donner la bonne forme pour chacun des x. Et puis, bien sûr, il va falloir l'optimiser par rapport aux paramètres. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment concevoir la fonction de coût de manière à ce qu'elle fasse ce qu'on veut. Alors, prenons un exemple très simple ici. Donc, c'est un exemple de régression. On prend une entrée qui est un scalaire, qui est cette variable-là, appelons-la x, et puis une sortie y, qui est cette variable-là. Et on veut entraîner le système à... donc les points bleus, là, ce sont les exemples d'apprentissage. Et ils sont tels que y égale x au carré. D'accord ? C'est simplement une parabole. Et là, ce qu'on veut faire, c'est entraîner un réseau de neurones à approximer cette fonction de cette manière à base d'énergie. Donc on concevoit une machine ici dont la fonction énergie calcule la compatibilité entre y et x, et une manière très simple de faire ça dans ce cas-là, c'est on prend la sortie du réseau de neurones, on calcule la distance entre la sortie de ce réseau de neurones avec l'entrée qu'on donne, et donc naturellement la meilleure valeur de cette variable est celle qui minimise cette distance est égale à la sortie du réseau de neurones. C'est un petit peu trivial comme exemple, mais c'est pour illustrer un peu ce qui se passe. Et ensuite, on entraîne le réseau de neurones à minimiser cette énergie en moyenne sur l'ensemble d'apprentissage. Et ce qu'on voit ici, c'est une animation de cette fonction d'énergie en fonction du temps à mesure que l'apprentissage progresse. D'accord ? Donc on part d'une fonction d'énergie qui n'est pas particulièrement bonne, et à fur et à mesure que l'apprentissage progresse, le minimum de l'énergie pour chaque valeur de x, pour une valeur particulière de x, le minimum par rapport à y de l'énergie se localise autour de l'exemple d'apprentissage pour ce x, ou autour de ce x. D'accord ? Donc on entraîne un espèce de paysage d'énergie de manière à ce que les minima de l'énergie par rapport à y soient aux endroits qu'on veut. Et ça, simplement en minimisant l'énergie moyenne sur l'ensemble d'apprentissage. Mais si on applique cette même fonction de coût à cet exemple-là, dans lequel on a deux réseaux de neurones, maintenant, un qui prend le X et un qui prend le Y, et on compare leurs sorties, encore une fois, on calcule la distance entre les deux, en fait, la norme est l'1, ici, dans ce cas-là, donc simplement la valeur absolue de la différence, et c'est ça notre énergie. Là, ça ne marche pas. Si on minimise l'énergie moyenne ici, on se retrouve avec le problème de collapse dont je parlais précédemment, c'est-à-dire que... ces deux réseaux, en fait, ignorent complètement les entrées, se produisent tous les deux des sorties constantes, et ça va minimiser la moyenne de l'énergie, mais ça ne va pas du tout résoudre le problème, donc on aboutit à une fonction d'énergie qui est toute plate, et qui ne fait pas le boulot. Donc ça conduit à cette idée d'avoir un terme contrastif, donc d'avoir non seulement un terme qui pousse l'énergie vers le bas de nos exemples d'apprentissage, mais qui aussi repousse vers le haut l'énergie des sorties qui sont incorrectes. Un exemple particulier pour ça, je ne vais pas faire toutes les maths, mais c'est juste vous montrer le résultat, c'est ce qu'on appelle, dans certains contextes, negative likelihood ou information mutuelle maximale, ou etc. Enfin, elle a plusieurs noms dans plusieurs contextes. C'est en fait la fonction de coût qui est utilisée en régression logistique quand on fait un logsoftmax au-dessus d'un réseau neurone pour faire la classification. C'est exactement cette fonction de coût qu'on utilise. Donc, qu'est-ce que dit cette fonction de coût? Elle dit c'est la moyenne sur les exemples d'apprentissage de l'énergie que le modèle donne à la réponse correcte. D'accord? Donc, E de W, Y, I, X, I, c'est l'énergie que le modèle donne à la réponse correcte. Donc ça, ça va être minimisé autant possible. On va prendre l'énergie de la réponse correcte la plus basse possible. Et là, il y a un terme contrastif qui est l'intégrale pour toutes les sorties possibles de E à la moins, un coefficient, l'énergie de cette réponse. Donc, de, encore une fois, sommer sur toutes les réponses possibles. Si la réponse est une variable discrète de catégorie, ça, ça devient une somme, hein, simplement. Et bien sûr, cette somme, ici, enfin le log de cette somme exponentielle, est une fonction décroissante de chacune de ces énergies. Donc, quand on va essayer de minimiser toute cette fonction-là, ça va repousser ces énergies vers le haut. D'accord ? Plus ces valeurs sont grandes, plus cette exponentielle avec un moins devant est petite, et donc plus l'intégrale est petite. Donc, ça va minimiser notre fonction si on repousse tous ces y. Donc, c'est un exemple de fonction de coût qui non seulement tire l'énergie des réponses correctes vers le bas, mais qui aussi repousse l'énergie des réponses incorrectes vers le haut. Et en fait, on peut l'obtenir par une dérivation relativement simple à partir du maximum de ressemblance de tous les y de l'ensemble d'apprentissage par rapport à tous les x. En faisant des hypothèses d'indépendance des exemples, et puis en prenant des logs, etc., on arrive à cette fonction de coût. Voilà comment ça marche en pratique. Donc, sur le petit exemple dont je vais vous montrer tout à l'heure, avec ces deux réseaux de neurones en parallèle, donc ici, la fonction de coût pousse les billes bleues vers le bas, mais repousse tout le reste vers le haut. Et donc on assiste à une espèce de creusement d'une vallée dans la fonction d'énergie. Alors voilà une autre fonction d'énergie qui est assez utilisée aussi, particulièrement dans le domaine du traitement de langage naturel, en tout cas qui était pas mal utilisée jusqu'à relativement récemment, qui s'appelle le perceptron structuré. Donc là, la fonction énergie est l'énergie de la réponse correcte, donc l'énergie que notre modèle donne au y correct, moins l'énergie de la réponse produite par le système. Donc si on prend le minimum sur tous les y de E de y, connaissant les autres variables, ce qu'on obtient, c'est la réponse, le y produit par le système, puisque c'est son algorithme d'inférence qui consiste à minimiser l'énergie par rapport à y. Donc ça, c'est l'énergie de la réponse du système, et ça, c'est l'énergie de la réponse correcte. On essaie de minimiser la différence entre les deux. Rendre ça le plus petit possible, rendre ça le plus grand possible. Donc si le système produit la mauvaise réponse, l'énergie de cette mauvaise réponse va être augmentée. S'il produit la bonne réponse, alors à ce moment-là, ces deux termes sont égaux, et rien ne se passe. D'accord ? Ça marche. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de marge, c'est-à-dire que on peut aboutir à un collapse aussi avec ce genre de fonction de coût où toutes les réponses ont en fait la même énergie. Et donc pour contrecarrer ce problème, on prend des fonctions de coût qui ont des marges. Alors en voilà un exemple. Donc c'est une fonction de coût là qui dit l'énergie de la réponse correcte doit être le plus petit possible, il y a un carré devant, mais c'est pas nécessaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser l'énergie de toutes les réponses, ou en tout cas d'une réponse pas bonne, peut-être la plus menaçante, que je note Y bar I ici. Et on va la repousser de manière à ce qu'elle soit plus grande qu'une certaine marge M, arbitraire qu'on décide a priori. Donc l'effet de ça va être de repousser cette énergie vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit au moins aussi grande que M. Et au-delà de ça, elle ne va rien faire avec un coût quadratique. Et là, quand on fait marcher ça sur ce petit exemple de réseau neurone, ici, on a un comportement tout à fait correct où l'énergie des exemples d'apprentissage reste basse et le reste des énergies plus hautes. Donc là, la manière dont ce y bar est choisi, c'est on le choisit de manière à ce qu'il soit différent du y i correct, donc à l'extérieur d'une certaine sphère, au-delà d'une certaine distance de la réponse correcte. mais en ayant l'énergie minimum. Donc c'est la valeur de Y qui est la plus menaçante, si vous voulez, qui est la plus basse, mais incorrecte. Alors il y a tout un catalogue, une ménagerie de fonctions de coût, de nature diverses et variées, qui ont été proposées par des gens en particulier dans le domaine de la reconnaissance de la parole. Et elles ont tous cette idée d'avoir deux termes, un terme qui tend à minimiser l'énergie de la réponse correcte, un autre terme qui tend à repousser vers le haut les énergies incorrectes. Voilà la ménagerie. Donc je vous ai parlé de ce que j'appelle l'energy loss, qui est simplement la moyenne de l'énergie de la réponse correcte. Alors ça ne marche pas, ça peut conduire à un collapse. Et la question de savoir si ça peut conduire à un collapse, en fait, est indiquée ici. Si la marge est zéro, donc on ne l'impose pas à être plus grande que zéro, à ce moment-là, il peut y avoir un collapse. Donc c'est le cas du perceptron structuré, il peut très bien y avoir un collapse. Par contre, ces autres fonctions de coût ici sont toutes correctes, c'est-à-dire qu'elles ont une marge qui force l'énergie des réponses incorrectes à être plus grande, strictement plus grande que l'énergie des réponses correctes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces trucs-là. C'est ce dont j'ai parlé précédemment, que les gens en parole appellent maximum mutual information, donc information mutuelle maximale, qui dans d'autres contextes s'appelle negative log likelihood, qui dans d'autres contextes s'appelle logs of max, dans le cas où c'est discret ici. Alors je vais maintenant rentrer un petit peu dans le détail de comment utiliser ça dans des utilisations particulières, donc par exemple pour la reconnaissance de mots, mais la situation s'applique à tout un tas de situations, et vous en verrez plus avec Gabriel plus tard. Donc pour faire la connexion, ceux d'entre vous qui connaissent un peu les graphes de facteurs ou les réseaux bayésiens, il y a une connexion très forte avec toutes ces choses-là. Donc, un CRF est une espèce de graphe de facteurs. Donc, peut-être je peux vous expliquer ce que c'est qu'un graphe de facteurs. Un graphe de facteurs, c'est une fonction d'énergie qui est composée d'une somme de plusieurs termes. Ça s'appelle les facteurs parce que on pourrait penser que quand on parle de facteurs, on se réfère à une multiplication. Mais c'est vrai dans le cas où on manipule les probabilités, mais là on manipule les énergies qui sont d'une certaine manière des logs de probabilités, donc les termes sont additifs. Donc la fonction d'énergie est une somme de termes, et chacun de ces termes dépend d'un sous-ensemble des variables y ou un sous-ensemble des variables z, quelquefois un sous-ensemble des variables x, mais c'est moins important. Et donc chacun de ces carrés en fait est un terme dans la fonction d'énergie. Dans la somme. Et ces modèles, conditional random field, maximum margin Markov nets, perceptrons structurés, sont des modèles par lesquels il y a une variable observée qui est passée à un extracteur de caractéristiques qui est fixe, qui n'a pas d'apprentissage, qui produit un vecteur. Et ce vecteur, on en calcule une somme pondérée. Donc on calcule le produit scalaire avec un vecteur de poids, ce qui nous donne un score, une énergie. Et chacune de ces boîtes-là le fait pour un sous-ensemble différent des variables y. À quoi ça sert ? Ça sert à produire des séquences d'y, par exemple, qui doivent respecter une certaine structure. Donc imaginons par exemple que ici on a un système de traduction de langue. Donc x est une phrase en anglais, disons. Et Y doit être une phrase en français. Et bien sûr, on connaît les dépendances de paires de mots qui doivent se suivre en français. On sait que certains mots peuvent suivre d'autres et d'autres ne peuvent pas suivre des mots. Donc on peut en fait implémenter ça par ce terme ici, ce facteur en fait, qui va nous dire on a le droit de mettre le mot... le mot noir après le mot chat, par exemple, mais le mot carré après chat a probablement peu de chances d'apparaître. Donc ça nous permet d'imposer des structures en fait sur des séquences de symboles. Alors, la manière dont la différence entre ces modèles, c'est la fonction coût qui est utilisée. Donc, les CRF utilisent negative likelihood, la fonction dont je vous ai parlé précédemment. Maximum margin Markov net utilise les fonctions de coût en charnière, hinge loss. Et structure perceptron utilise la fonction coût du perceptron. Et l'apprentissage porte sur ces poids. Donc, ce sont des modèles shallow, pas deep. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule couche de poids. Et ça présente l'intérêt que la fonction énergie est une fonction linéaire des paramètres. Mais en fait, rien ne nous empêche de rendre ces fonctions plus compliquées, et en particulier de leur donner la structure d'un réseau de neurones ou disons d'un modèle compliqué profond, paramétré par des paramètres qui sont à l'intérieur. Et maintenant, notre fonction d'énergie est une somme de ces facteurs, encore une fois, mais chacun de ces facteurs est un réseau de neurones complet, d'une certaine manière. Alors, on peut entraîner ces choses-là avec plusieurs fonctions de coût, certaines dont j'ai parlé précédemment. Et en fait, ces modèles précèdent, historiquement, ces modèles-là précèdent ceux-là. Mais les gens trouvaient ça un peu trop compliqué. Alors ça nous permet de faire des choses amusantes, qui peuvent être vues de plusieurs manières, mais une manière en particulier qui est ce que j'appelle les Graph Transformer Networks, donc des réseaux à transformation graph. Et on peut voir ça comme des réseaux multicouches dans lesquels les variables d'état ne sont pas des vecteurs ou des tableaux, comme dans les réseaux convolutifs. Donc dans un réseau neurone normal, les états internes, l'entrée, la sortie, les états internes, sont des vecteurs. Dans les réseaux convolutifs, ce sont des tableaux, possiblement de taille variable. Dans le cas des GTN, donc Graph Transformer Networks, les états internes de la machine sont des graphes qui sont étiquetés par des valeurs numériques, par des images, par des vecteurs, par des scores, etc. Et chaque couche dans ce réseau-là, en fait, transforme un graphe en un autre graphe. Alors ça semble un petit peu compliqué, mais il s'avère qu'on peut tout à fait rétropropager des gradients à travers des structures de ce type-là. Et ça permet un peu de généraliser la notion de réseau de neurones à des objets un peu plus compliqués. Donc ça, c'est la même figure que je vous avais présentée précédemment. Mais je vais vous donner un exemple un petit peu plus compliqué, qui est en fait l'architecture d'un système que mes collègues et moi avons construit à Bell Labs au début des années 90, et qui est la base d'un système de lecture de chèques à la fin des années 90, lisait un pourcentage assez important d'échecs aux États-Unis et était déployé aussi en France, d'ailleurs, dans les distributeurs de billets qui peuvent lire l'échec automatiquement. Les machines modernes utilisent d'autres systèmes de reconnaissance, en particulier produits par la compagnie française A2IA, mais qui sont très similaires à ce dont je vais parler ici. Donc c'était parmi les premiers systèmes capables de lire l'écriture manuscrite de manière un petit peu fiable, en tout cas, pour l'échec. Donc on prend une image, on la passe par un segmenteur heuristique donc qui construit ce graphe de segmentation dont je vous ai parlé précédemment, dans lequel chaque arc est étiqueté par un morceau de l'image, de telle manière à ce que chaque chemin dans ce graphe passe une fois et une seule fois par tous les morceaux d'encre, si vous voulez, sur l'image. Donc, encore une fois ici, on peut séparer chacun des trois morceaux ici. Donc, ça nous donne un chemin dans ce graphe où il y a le 3, la partie gauche du 4, la partie droite du 4. Un autre chemin avec le 3, la partie gauche du 4 et séparément la partie droite du 4, ou le chemin évidemment correct avec le 3 et le 4. D'accord ? Donc chacun des chemins ici est une hypothèse d'interprétation qui est étiquetée par une image. On passe notre réseau de neurones préféré sur chacune de ces images, qui nous donne une dizaine de scores, donc un score pour chacune des catégories. Et on va produire un graphe qui est exactement de même nature que celui-là, ici, dans lequel chaque arc a été remplacé par 10 arcs, j'en ai dessiné que 2 ici, et chacun de ces arcs est étiqueté par une catégorie et un score. D'accord ? C'est l'énergie qui sort du réseau neurone. D'accord ? Donc une valeur basse correspond à un score élevé, si vous voulez. Donc maintenant, la réponse que le système va produire, c'est le chemin le plus court dans ce graphe, c'est-à-dire le chemin de gauche à droite dont la somme des énergies est la plus basse. D'accord ? Et c'est une minimisation par rapport à une variable latente qui est le chemin dans le graphe, qui correspond à une segmentation particulière de l'entrée. Mais là, ce qu'on va faire pendant l'apprentissage, c'est qu'on va dire au système, la réponse, c'est 3, 4. Donc, parmi tous les chemins qui sont là-dedans, sélectionne ceux dont l'étiquetage est 3 suivi de 4. Et il y en a deux dans ce graphe-là. Il y a ce chemin ici et ce chemin-là. Ensuite, on va prendre le meilleur de ces deux chemins, celui de coup plus bas, donc qui correspond à ce chemin-là. Et le coup va être 0,7, parce qu'on a un coup de 0,1 ici, 0,6 là, et donc ça nous donne un coup de 0,7. Ok, donc ça, c'est le coût de la réponse correcte. On a forcé le système à donner la réponse correcte, et ce qu'il nous donne, c'est le coût de la réponse correcte. D'accord ? L'énergie de la réponse correcte. Et on va essayer de rendre ça le plus bas possible. Et par ailleurs, on va utiliser une fonction coût du perceptron ici. Par ailleurs, on va laisser le système disons libre, et le système va juste produire la réponse qu'il veut produire, qui a l'énergie la plus basse, sans contrainte. Et bien évidemment, l'énergie qui va être produite par ça va être plus basse que l'énergie sous contrainte, parce que ici c'est l'énergie du chemin qui est la plus basse énergie, alors que dans le cas précédent, c'était l'énergie de la réponse correcte qui est forcément une énergie un petit peu plus haute. Si l'énergie était la même, la réponse correcte serait la même que la réponse incorrecte. Enfin, que la réponse spontanée. Donc tout ça correspond à des opérations sur des graphes, et la chose magique là-dedans, c'est qu'on peut rétropropager des gradients à travers tout ça. Donc si on a une fonction de coût qui est, par exemple, la différence entre ces deux coûts, qui n'est en fait pas une très bonne fonction de coût, il faudrait mettre une marge, etc., mais disons, pour expliquer simplement, donc on va calculer une fonction de coût qui est en fait la différence entre l'énergie de la réponse correcte, donc l'énergie que le système nous donne quand on le force à produire la réponse correcte, et l'énergie spontanée qui nous donne la plus petite énergie possible de toutes les réponses. Et il s'avère qu'on peut très bien calculer le gradient de cette différence, qui vaut 0,1 dans ce cas-là, parce qu'on a 0,7 d'un côté, 0,6 de l'autre. Donc on peut calculer le gradient de ce 0,1 par rapport à 0,7, c'est simplement 1. C'est-à-dire si on bouge ce 0,7 par delta, ça va faire bouger ça par delta. Si on bouge ce 0,6 par delta, ça va faire bouger ce 0,1 par moins delta, donc on a un gradient de moins 1. De même, comme ce nombre est la somme de ces deux nombres, il suffit de copier le gradient. On a vu dans un cours précédent que si on avait une opération de somme, quand on rétropropage, c'est simplement une copie des gradients. Donc on peut avoir des gradients par rapport aux valeurs qui sont sur ces arcs. Et de même, ici, on peut avoir des gradients par rapport aux valeurs qui sont sur les arcs qui ont été copiés dans le graphe de sortie ici, les autres ayant des gradients de zéro. Si on change ces valeurs d'un petit peu, ça n'aura absolument aucun effet sur le coût de sortie. Alors, quand je dis gradient, c'est un abus de langage, je devrais dire sous-gradient, parce que ces fonctions-là, en fait, ne sont pas différenciables partout, il y a des coins. Quand une valeur passe en dessous d'une autre, d'un seul coup, il y en a une qui devient activée, l'autre désactivée. Donc c'est une fonction qui a des coins. Donc techniquement, c'est un sous-gradient. Mais encore une fois, on peut rétropropager à travers ça. Ici, les arcs qui sont présents à gauche reçoivent un gradient de 1. Ceux qui sont présents à droite reçoivent un gradient de moins 1. Et ceux qui sont présents dans les deux, on fait la somme des gradients qui viennent des deux moitiés, et en fait, on se retrouve avec zéro. Donc, par exemple, ce chemin-là, on le trouve à gauche et à droite, et on se retrouve avec un gradient de zéro, parce qu'il y a un plus 1 qui vient de ce côté-là, un moins 1 de ce côté-là, quand on les ajoute, ça fait zéro. Ce chemin-là est correct, est dans la réponse correcte, mais n'est pas dans la réponse incorrecte, il reçoit un gradient plus 1. Ces deux chemins-là sont dans la réponse incorrecte, mais pas dans la réponse correcte, ils reçoivent des gradients de moins 1. Et ensuite, ça nous donne des gradients par rapport aux sorties de tous ces réseaux de neurones qu'on peut rétropropager à travers les réseaux de neurones, qui sont en fait plusieurs copies du même réseau de neurones qui partagent tous les poids, d'accord ? Et on peut rétropropager à travers ça, faire la somme de tous les gradients pour trouver les gradients par rapport aux paramètres. Et ce que, le résultat que ça va nous donner, c'est que maintenant, ce réseau neuronal va s'entraîner non seulement à reconnaître ces caractères indépendamment les uns des autres, mais en plus à donner des scores de manière à ce que la segmentation correcte soit choisie. Et tout ça sans dire à la machine quelle est la segmentation correcte. C'est-à-dire c'est une variable latente. On dit simplement à la machine, voilà une séquence, voilà les segmentations possibles, voilà la réponse correcte, trouve la segmentation qui correspond à la meilleure réponse, spontanément. On peut appeler ça donc apprentissage structuré ou apprentissage faiblement supervisé, etc. Question.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre GCVIT et GVIT?
Ouais, alors ça c'est le chemin dans ce graphe qui, d'une part, produit la réponse correcte, donc qui produit l'étiquetage 3, 4. D'accord ? Donc l'opération qu'on a fait ici, c'est que parmi tous les chemins ici, on a sélectionné celui qui donne la réponse 3, 4, d'accord, qui est la réponse correcte, qui est donnée ici. Alors que celui-là, c'est le chemin d'énergie minimum, c'est le chemin plus court, enfin le chemin dont la somme des énergies est la plus basse. Possiblement incorrect. Dans ce cas-là, incorrect, oui. Mais bon.
D'accord, donc c'est seulement le chemin.
Voilà. Donc le C correspond à contraint, en fait. Donc ça, c'est le graphe Viterbi. On peut utiliser l'algorithme de Viterbi pour trouver le plus court chemin dans le graphe. Enfin, c'est la programmation dynamique, hein, tout bêtement. Et ça, c'est le contraint. Donc on peut entraîner. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, on peut entraîner un système au niveau du mot à donner la bonne réponse sans lui donner la segmentation exacte de tous les caractères dans le mot. Et c'est le principe un petit peu de l'apprentissage structuré. Donc on peut assembler ça dans des systèmes. Il y a une mécanique un petit peu générale qu'on appelle les transducteurs de graphes, qui sont un ensemble d'opérations abstraites qui permettent de combiner des graphes. Donc par exemple, ce serait l'opération dont on aurait besoin si on avait un ensemble de propositions d'interprétation, par exemple, d'une séquence de mots écrits, enfin d'un mot écrit ou de mots parlés, et qu'on veut combiner ça au graphe qui correspondrait par exemple à un dictionnaire, un modèle de langage. Il faut faire une opération de combinaison de ces deux graphes qui dit parmi tous les chemins de ce graphe, je veux sélectionner ceux qui sont dans la langue. Et l'opération de combinaison de ces deux graphes-là est ce qu'on appelle une composition. Et ces graphes-là peuvent être appelés des accepteurs ou des transducteurs en fonction de la manière dont ils sont construits. Et donc la grosse question, c'est comment construire toutes ces opérations sur les graphes de manière à pouvoir rétropropager des gradients à travers, pouvoir entraîner des systèmes au niveau global. Donc il y avait une bibliothèque pour faire ce genre de choses dans le système Loesch qui est maintenant désuet, et une nouvelle qui permet d'entraîner des réseaux comme ça avec des systèmes de graphes au-dessus, qui a été écrit par Ronan Colobert, je pense qu'il prévoit de le distribuer en open source relativement... Donc, très bientôt. C'est donc ce qui se sert pour produire des systèmes de reconnaissance de parole dont Gabriel va vous parler. Voilà, donc je vais arrêter ici, à vrai dire, et passer la parole à Gabriel et vous remercier. Donc on gardera quelques minutes de questions à la fin.